Alors, on va commencer cette table ronde en faisant des allers-retours un peu entre le film qu'on a vu et d'autres expériences, puisque l'idée, c'était d'avoir une discussion à partir de plusieurs terrains ancrés sur divers lieux du globe, aussi bien sur le terrain africain et aussi sur le terrain français. Alors, cette table ronde qu'on avait décidé d'appeler des artistes hip-hop au cœur des mobilisations politiques, exemples internationaux. Je vais un peu commencer par la présenter, puis ensuite on présentera chacun de nos intervenants. Alors l'idée d'avoir décidé de travailler sur cette question-là des artistes hip-hop dans les mobilisations politiques, c'était un peu pour aller contre l'idée qui est souvent répandue, notamment dans un certain nombre de discours sur les musiques hip-hop, qui serait que le rap serait par essence politique, et notamment beaucoup parce que l'on parle de la parole politique des artistes. Et là, ici, c'était pas tellement ça qui nous intéressait. C'était justement un peu de déconstruire cet essentialisme qu'il y a autour des musiques rap vis-à-vis de son rapport à la politique. Ce qui nous intéressait, c'était de voir comment les artistes peuvent eux-mêmes intervenir en politique en se liant aux mobilisations sociales, et je pense que le film d'Audrey Gallais nous en a donné un des meilleurs exemples qui puisse exister. Finalement, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que les artistes sont des acteurs sociaux comme les autres, c'est-à-dire qui ont aussi des interventions, qui peuvent intervenir dans les mouvements sociaux comme les autres, mais bien sûr avec des ressources spécifiques liées à leur notoriété, à leurs compétences esthétiques, etc. Et je pense que c'est ce que vont nous parler les intervenants qui sont ici. Donc voilà, on a décidé bien sûr de pouvoir aborder différents terrains, comme je le disais. Et donc on va présenter nos intervenants. Alors, on aura Smokey, qui est donc rappeur burkinabé et fondateur du mouvement Le Ballet Citoyen, dont il nous parlera juste après. Nous avons Maître Madge, donc, qui est producteur, fondateur du label Assassin Productions, qui est aujourd'hui aussi DJ. Assassin, pour tous ceux qui connaissent le rap français, savent à quel point ce fut un des premier groupe éminemment politique, et notamment on reviendra sur une des expériences au sein de laquelle Assassin a été pivot, qui sont les 11-30 contre les lois racistes. On reviendra ensuite là-dessus. Ensuite, Abdoulaye Niang, qui est socio-anthropologue à l'université de Saint-Louis, et qui connaît très bien et qui nous parlera de l'ensemble de ses expériences politiques entre art et politique au Sénégal principalement, mais peut-être pas que. Et puis Alice Eterianus, donc, qui est également organisatrice du colloque et anthropologue spécialiste du rap gabonais principalement, voilà.
Et bien sûr, on a également Marie Sonnette, hein, qui a introduit l'événement, mais qui est aussi organisatrice du colloque. Et Marie, qui est sociologue, spécialiste du rap français, notamment des relations entre rap et politique. Alors peut-être que, voilà, comme on sort de ce film qui éveille pas mal de réactions et de questions sur le cas sénégalais, sur le mouvement Y'en a marre, peut-être qu'on pourrait poursuivre dans cette lancée-là avec une intervention d'Abdoulaye. Et moi, j'aurais bien aimé peut-être que tu nous apportes des éclairages, parce qu'on peut avoir l'impression en voyant ce film que c'est quelque chose qui a surgi ex nihilo de la part d'un groupe de 4 ou 5 personnes, et peut-être qu'il pourrait être intéressant de revenir sur la longue historicité de l'implication du rap dans la politique au Sénégal et dans ses alternances, et peut-être même avant le rap aussi, voilà, pour peut-être inscrire tout ça dans une plus longue histoire.
Oui. Voilà, merci. Je vais essayer, on m'a demandé d'être bref, même si ce sera un peu compliqué pour moi, je l'avoue. Parce que c'est justement très fréquent de considérer que Y'en a marre, qui est un mouvement qui est extrêmement médiatisé, comme on vient de le voir, a été une sorte de point de départ pour ces mobilisations politiques. Alors que ce mouvement, bien qu'ayant atteint, il faut bien l'avouer, peut-être un degré inédit jusque-là, s'inscrit plutôt dans un continuum qui ne date pas du tout de 2011. Donc le rap sénégalais, même si on n'essentialise rien ici, hein, pour rappeler ce que Marie a dit, a une longue tradition de mobilisation politique, mais qui jusque-là n'avait pas eu cette ampleur. Je vais peut-être, puisque le temps est très compté, montrer quelques images qui me semblent assez expressives pour dire à quel point cela s'inscrit dans une certaine historicité. Je vais commencer par vous montrer tout simplement une image qui reproduit un projet de compilation qui date de plus de 15 ans, normalement, et qui a été fait par quelqu'un d'ailleurs qui est membre de Yanamar, mais qui est aussi rappeur, danseur et surtout artiste-writer, graffeur, c'est Docta. Et cela représente un MC qui traîne un micro qui, vous l'aurez remarqué, est d'une taille surdimensionnée. Et cette grande taille traduit en fait la lourdeur de la mission du MC, dans l'entendement justement de ceux qui ont monté ce projet-là. Alors, manifestement, ils le traînent avec beaucoup de difficultés. Il y a une expression Wolof qui fait fonction de légende ici et qui dit « Boulson ». Ça veut dire « n'abandonne pas hein, »,« ne laisse pas tomber », malgré justement le caractère assez difficile de cette mission. Donc cette image du rappeur missionnaire ne date pas d'aujourd'hui, et elle est assez inscrite quand même dans les pratiques rapologiques entre guillemets au Sénégal. Alors, je vous montre très rapidement une deuxième image, hein, avant d'en venir peut-être à Kergui et à Yanamar. C'est quelque chose qui date justement de 2000 et qui a marqué la prise du pouvoir, entre guillemets, par Abdoulaye Wade, hein, qui a été tant combattu par la suite par Yanamar. C'est sorti en 2000 et c'était une compilation qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ces politiciens, vous aurez compris le jeu de mots, hein, je vais peut-être clarifier très rapidement, c'est politiciens, voilà. Donc le politique en tant qu'homme avec une tête de chien qui exprime justement la grande méfiance que les rappeurs ont vis-à-vis de cette catégorie-là. Mais ce n'est pas que l'homme politique, c'est une dénonciation qui va bien au-delà. On peut dire du système politico-maraboutique qui est très présent au Sénégal, parce que le personnage qui est assis sur le tapis, qui est d'une couleur jaune, symbole de l'abondance, représente très manifestement un marabout, qui serait donc complice justement de l'exploitation du peuple que l'on voit en arrière-plan par rapport à ces politiciens-là. Bien sûr, à côté du personnage, vous avez de l'argent, hein, un tas de billets. Vous avez aussi des lingots d'or. Vous avez un couteau qui est fiché sur la terre et qui représente le partage qui se fait au sommet, alors que les autres crèvent de faim, etc. Alors, on pourrait multiplier les exemples. 2008, c'est un peu plus récent. Une image, ce n'est pas de la musique cette fois-ci, c'est plutôt des graffitis, mais qui revient toujours sur la question de l'injustice sociale et la nécessité pour les citoyens sénégalais de se mobiliser pour combattre cette injustice-là. Alors, oui, là, c'était aussi une initiative qui a été prise par une association, Amadou Falba, que vous avez, pour certains, ceux qui étaient là hier, qui ont suivi la table ronde, est membre justement de cette association-là, qui est Afrique Urbaine, qui, depuis les années 2000 et quelques, avait initié aussi un ensemble d'actions citoyennes qui avait une portée politique très forte. Donc, ce que je voudrais dire à travers ces différentes images passées très rapidement, c'est que avec Yanamar, ce qu'on a eu, ça a été un niveau d'organisation qui était remarquable. Hein. On a parlé assez rapidement dans ce film-là des esprits. Et ces esprits-là étaient des sortes, en fait, de représentants locaux volontairement engagés dans cette action de mobilisation politique qu'on a retrouvé dans toutes les régions et toutes les grandes localités du Sénégal. Le film ne le fait pas tout à fait voir, et c'est normal, mais tout ce qu'on a montré se concentrait essentiellement sur Dakar et Kaolack. Mais la réalité est que, pour nombre de ces mobilisations, et j'ai été dans certaines de ces manifestations moi-même, c'était quelque chose qui était fait à l'échelle nationale. Donc c'était des mobilisations simultanées, de telle sorte que l'État avait même du mal à avoir assez de forces de l'ordre pour les contrecarrer. Donc en même temps que ça se passait à Dakar, à Louga, à Thiès également, il y avait des actions conjointes qui se déroulaient. Quand on prend maintenant le tournant, puisqu'il faut le considérer comme tel, de 2011, c'est que Yann Amar a eu le génie aussi d'avoir pu fédérer autour de ce programme d'autres valeurs fortes du rap sénégalais. Donc vous avez peut-être entrevu très rapidement Awadi, mais également Khoumane, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais au Sénégal, ce sont des personnes qui comptent beaucoup en termes de respect et en termes de capacité à lever des foules. Donc, non seulement Kirgui a su amorcer une action collective, mais il a su aussi regrouper autour de cette action-là des personnes ressources qui ont pu également mobiliser leurs réseaux respectifs afin de rendre le mouvement beaucoup plus fort. Alors, c'est aussi, je pense, l'utilisation d'un art populaire. Je pense que là, quand même, il faudra le dire, on sort vraiment des frontières exclusives de la musique, parce que le mouvement en tant que tel a beaucoup puisé aussi sur d'autres plateformes artistiques, que ce soit avec les graffitis, etc., pour mener ces genres de mobilisation, avec cette idée de construire une action pérenne. Et ça, je pense que tout à fait à la fin du film, il y a un petit clin d'œil qui l'évoque. Quand Fadel Barro dit qu'il est fatigué, parce qu'effectivement, c'est un combat qui a été épuisant. On n'a pas tout montré. J'ai été témoin de certaines choses, des bastonnades très sauvages, des arrestations à gauche, à droite, etc. Les morts qu'ils ont évoquées, il y en a eu beaucoup plus, je pense, parce qu'il y a eu vraiment des décès avec des violences policières. Il y a eu des personnes qui ont disparu, dont on n'a plus entendu parler. Et lorsqu'on prend cette sorte d'aveu, en fait, d'épuisement à la fin, ça ne veut pas dire justement qu'ils ont lâché le combat. Et ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir plus amplement plus tard, mais beaucoup de Sénégalais n'avaient pas tout à fait compris, finalement, cette posture-là. Parce qu'il s'agit, pour la majorité des citoyens, de considérer que c'était une sorte d'organisation ad hoc qui aurait disparu de sa belle mort après que Abdoulaye Wade soit dégagé du pouvoir. Mais en réalité, dans l'esprit de Yann Amar, depuis le début, il s'agissait plutôt d'une sorte de veille citoyenne qui allait continuer à exister au-delà du départ d'Abdoulaye Wade. Alors, j'espère qu'on pourra revenir peut-être sur ce point, mais je voudrais juste, pour laisser à mes vis-à-vis la possibilité aussi de se prononcer sur ces questions, je voudrais juste dire que c'est ce qui explique, et je donne ici quelques exemples, même qu'après l'alternance politique de 2012, qu'il y a eu un ensemble de programmes qui ont suivi et qui avaient toujours cette vocation politique, avec quand même toujours une position très claire sur un aspect, à savoir que Yann Amar n'était pas un parti politique et qu'il ne le deviendrait pas. Donc, être directement dans le pouvoir, Kiat l'a souligné, c'est être finalement dans une sorte de piège et ne plus avoir cette position de recul qui vous permet d'être une sentinelle des dérives de ce pouvoir-là. Donc, Yann Amar a beaucoup été sollicité. Il y a eu la proposition d'un poste ministériel, je parle un peu en connaissance de cause, qu'ils ont refusé. Il y a eu la tentative de créer une structure qui serait dirigée par quelqu'un de Yann Amar. C'est une structure qui ressemblerait un peu d'ailleurs à la Maison des Cultures Urbaines, mais qui ne viendrait pas de la mairie, mais de l'État du Sénégal. Beaucoup donc d'appâts ont été posés devant eux pour essayer de les récupérer politiquement. Et on peut être critique ou ne pas être critique et être très favorable à l'action de Yann Amar, mais ce qui est avéré jusque-là, c'est que malgré les multiples tentatives de récupération, ils ont su résister. Mais encore une fois de plus, je tiens à insister sur le fait que ce n'est pas avec Yann Amar que le rap a été directement impliqué dans l'action politique au Sénégal. Voilà, je tiens vraiment à le dire.
Merci beaucoup Abdoulaye, ton éclairage est vraiment important justement pour réhistoriciser tout ça et comprendre comment ces mouvements qui sont ponctuellement extrêmement mis en évidence dans les médias s'inscrivent dans des plus longs processus, dans presque des traditions démocratiques aussi propres à des fonctionnements politiques, et puis de montrer aussi qu'il y a tout un faisceau d'outils qui vont être utilisés à l'intérieur de ces mouvements-là. Et du coup, peut-être ça pourrait être l'occasion qu'on poursuive avec ton expérience moquée et que tu racontes comment le ballet citoyen s'est créé, quelle histoire il a et comment il en est arrivé aux transformations politiques qu'il y a eu au Burkina à partir de 2014.
Bien, merci. Bonsoir à tous. Contrairement à mon frère et camarade Abdoulaye, moi, je n'ai pas la technologie avec moi, je n'ai que ma gueule. Donc, je vais exprimer avec mon outil préféré. Je m'appelle Bambara Serge Martin, à l'état civil, je suis burkinabé. Plus précisément de père burkinabé et de mère française, mais je suis né, j'ai grandi au Burkina Faso. Et je suis accessoirement aussi appelé « se moquer », contraction de deux mots « se moquer » parce que j'avais l'habitude de mettre de l'ironie dans mes propos. Alors, j'aime bien cette phrase de Gandhi qui dit que le bonheur, quand on lui a posé la question « c'est quoi le bonheur pour toi ?», il a dit que le bonheur, c'était lorsque la parole était en harmonie avec les actes. Voilà. Et je trouve que ça définit assez bien ma façon de voir les choses. Parce que, d'une certaine façon, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a dit qu'on ne devient pas ce que l'on veut, on devient ce que l'on est. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais je trouve que c'est une belle phrase. Autrement dit, le changement est un comportement. Si vous voulez changer les choses, il faut à un moment donné que vous puissiez, d'une certaine façon, incarner ce changement-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la culture n'est pas l'ennemi du changement, elle en est plutôt son plus fidèle compagnon, je dirais même plus, elle précède le changement. Parce que pour qui sait analyser les choses, en tout cas dans le domaine artistique, que ce soit les arts plastiques, la musique, la poésie, l'écriture, etc., on voit bien que les artistes ont toujours une longueur d'avance sur ce qui va advenir, une sorte de prémonition, une sorte de sixième sens. C'est pas parce que ça ne fait pas d'eux des êtres surhumains, c'est tout simplement qu'ils sont, je pense, un peu plus proches des gens, communautés humaines. Donc ils perçoivent les dangers, bien souvent, et lorsqu'on écoute les chansons, lorsqu'on lit les livres, lorsqu'on regarde des dessins, certains dessins, on se rend compte que finalement, les choses finissent par advenir. Et le changement, pour moi, ça commence d'abord par assumer ce que l'on pense, par assumer ce que l'on dit. Vous ne pouvez pas être un rappeur qui dénonce d'une certaine façon les situations intolérables, les situations d'injustice, les situations de malgouvernance, etc. Et puis ne pas d'une certaine façon mettre la main à la pâte. Alors à un moment donné, nous on s'est dit, il était peut-être temps pour nous de mouiller le maillot. On a commencé déjà dans les années 2010, on se rencontrait au niveau du centre de presse Norbert Zongo, qui était en hommage au journaliste burkinabé qui a été assassiné en 1998 par un collège d'assassins proche du petit frère de l'ex-président Compaoré qui a été chassé. Et donc on se retrouverait là-bas et puis on parlait d'organisation déjà à l'époque. Moi j'étais allé au Maroc, à Casablanca, j'étais tombé sur un clochard qui m'avait demandé une cigarette. Et je lui ai donné une cigarette et pour me remercier, il m'a dit cette belle phrase, il m'a dit « S'organiser, c'est gagner ». Et j'ai pensé à ce clochard qui a travaillé toute sa vie, enfin, qui a galéré toute sa vie et qui traîne dans les rues de Casablanca et qui en est arrivé à cette conclusion ô combien philosophique que s'organiser, c'était gagner. Un peu comme si, s'il l'avait su plus tôt, il n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Et moi, je me suis dit, mais effectivement, il est temps qu'on s'organise. En 2011, le président Blaise Compaoré, ex-président, il faut que je m'habitue à ça. L'ex-président Blaise Compaoré a été chassé par ses propres gardes du palais présidentiel. Beaucoup de gens n'y ont pas cru. Ils ont pensé que c'était encore le machiavélisme d'une intelligence supérieure. Voilà, comme toujours, les dictateurs sont souvent pris pour ce qu'ils ne sont pas, parce qu'en réalité, ils sont tout simplement ce qu'on ne penserait pas qu'ils soient, c'est-à-dire simplement des cons ou des imbéciles. Et malheureusement, on est très souvent dirigé, en tout cas oppressé par des imbéciles. Donc cet imbécile-là s'est fait chasser de son palais, mais peu de gens y croyaient, si bien que la société civile en elle-même n'était pas préparée. Moi, je me suis retrouvé sur la place de la Révolution avec ma pancarte, j'avais l'air ridicule, Blaise dégage. Avec quelques opposants de l'opposition. Mais dans sa grande majorité, la société civile, y compris les syndicats, avaient boycotté cet événement-là parce qu'ils estimaient qui ne voulaient pas être récupérés par les politiques. Depuis quand les syndicats ont peur d'être récupérés par les politiques? That is the question. Il n'y a pas si longtemps, ça c'était avant-hier, j'étais à la Grande Arche de la Défense, j'ai vu une manifestation de la CGT. J'ai vu quelques dizaines de bougres, si je puis les appeler ainsi, c'était pas plus d'une vingtaine, qui vociféraient, qui manifestaient. Il y avait plus de CRS que de manifestants. Et je trouve que c'est un peu le mal du siècle aujourd'hui. On ne rejoint pas la philosophie de Gandhi qui dit que les paroles doivent être en accord avec les actes. Finalement, tout le monde se plaint, mais très peu de personnes agissent. Et il y a une nouvelle race de combattants aujourd'hui, sur notamment les combattants de clavier, comme je les appelle, du net. C'est-à-dire qu'on permet à une certaine catégorie de citoyens de se dédouaner en fait, de leur non-engagement, de se dédouaner de leur paresse intellectuelle ou leur paresse tout court, ou de leur manque de courage. Il suffit que quelqu'un poste un truc, il y en a un qui s'assoit bien à l'abri derrière son clavier, il met « j'aime », lui il a lutté, c'est fini. Quand on va le « oh non, j'aime pas ça, non, les gars là ils exagèrent quoi », parce que lui il est actif sur le net, ça veut dire qu'il est un combattant. Vous voyez, donc les réseaux internet, ça c'est bien pour diffuser les informations, ça c'est une étape, c'est un peu comme nos chansons, c'est bien pour semer la graine de l'insoumission, c'est bien. Mais à un moment donné, ça ne doit pas se suffire. Parce que moi, j'arrive souvent dans des débats où on tient toujours à m'expliquer que c'est grâce aux réseaux sociaux que la résistance s'organise. Moi, je dis non. Les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi. Les réseaux sociaux sont un moyen, sont un outil. Mais après, nous, on a fait des expériences. Pour vous, c'est peut-être plus évident ici parce que les réseaux sont fluides. Chez nous, il y a deux problèmes. D'abord, très peu de gens ont effectivement, dans leur majorité, accès à Internet, peut-être 2 ou 3 ou grand maximum 4%. Quand on analyse les provinces, 80% d'analphabètes, très peu d'infrastructures. Ensuite, lorsque le dictateur veut vous freiner dans votre élan, il lui suffit simplement de couper les réseaux de téléphonie, c'en est terminé de la lutte. Donc nous pensons que la lutte numérique ne peut pas se passer en aucun cas de la lutte analogique. La lutte analogique, c'est celle que nous menons tous aujourd'hui. La lutte analogique, c'est vous, par votre présence. C'est ça que moi, j'appelle la lutte analogique. Parce que l'autre, c'est la lutte virtuelle. Quand on lance le message, on dit « Rendez-vous sur la place de la Révolution, sur les réseaux sociaux, on arrive, un tendu, trois pelés. » Alors qu'on a peut-être eu 15 000 j'aime. Faites le calcul, il y a combien de pourcentage de gens qui ont eu accès à l'information et qui sont présents sur le terrain. Bref, c'est tout cela qui nous a amenés à tenter de nous organiser, à créer ce mouvement, le Palais citoyen, un 25 août 2013. Auparavant, on avait déjà fait une conférence de presse le 18 juin, si je ne m'abuse. Donc, l'idée du Palais citoyen, c'est quoi? D'abord, la symbolique du balai, c'est un balai traditionnel. En fait, si vous remarquez, c'est un balai à l'envers. Enfin, le manche est vers le haut. Et le balai est vers le bas. Et donc, le manche, c'est un point fermé. Et au milieu, c'est le drapeau du Burkina Faso, rouge, vert, avec l'étoile jaune, qui peut s'échanger en fonction des réalités nationales, on va dire. Et le symbole, le slogan du Palais citoyen, c'est ça, c'est « Notre nombre est notre force ».« Our number is our force ». Alors, après, dans la pratique, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le nombre conscient, même limité, est beaucoup mieux que le nombre en vrac. Mais c'est un outil. La solidarité est très importante dans ce combat-là. Et le balai, on l'a choisi parce que c'est un instrument qu'on retrouve dans tous les foyers, dans tous les ménages. C'est un instrument international. C'est un instrument qui, lorsque vous enlevez un seul brin, c'est à la limite une ordure. Ça peut rien, vous ne pouvez rien faire avec, mais lorsque vous les mettez ensemble, vous déplacez un sacré tas d'ordures. L'autre particule citoyenne, c'est juste pour appeler le combat politique, car le balai citoyen est un mouvement politique qui s'assume comme tel. À la seule différence d'un parti politique, il ne s'implique pas dans l'exécutif. C'est aussi un mouvement pacifique. Pourquoi? Parce que, comme le dit le proverbe africain, c'est lorsque le moustique se pose sur tes testicules que tu te rends compte que tu ne peux pas tout résoudre par la violence. Donc, fort de ce fait et de cette belle leçon, nous pensons que nous pouvons mener cette lutte-là avec un point de fer dans un gant de velours. Voilà. Sachant que c'est un siècle de communication, c'est un siècle du numérique, on l'a vu tout à l'heure avec Yanamar, ils sont assez forts dedans. Et ils ont d'ailleurs des journalistes qui sont au niveau de la coordination nationale, nous aussi. Nous avons des journalistes, nous avons des avocats, nous avons des juges, nous avons des commerçants, des paysans, des étudiants, des biochimistes. Il y a vraiment de tout dans le balai citoyen. On essaie de toucher toutes les couches sociales. Alors, on fonctionne comment ? La cellule de base, la structure de base, je n'aime pas dire la cellule parce que ça me rappelle la prison. J'ai dit ça à mes collègues de Filimbi, un autre mouvement social du Congo. Je leur ai dit, vous savez pourquoi vous avez autant d'arrestations avec la Lucha ? Parce que vous appelez vos structures des cellules. C'est normal que vous vous retrouviez dans des cellules. Donc la structure de base du balai citoyen s'appelle le club Cibal. Et Cibal, ça vient de citoyen balayeur. C'est le masculin et le féminin, c'est Cibel. Donc un club Cibal est composé en moyenne de 10 personnes dans les quartiers. Et un regroupement de plusieurs clubs Cibal forme ce que l'on appelle, nous, un point focal. Et au niveau des régions, comme la région Rhône-Alpes ou la région d'Alsace, etc., nous avons ce que nous appelons des coordinations régionales. Au niveau de l'organe suprême, enfin l'organe au-dessus qui coordonne toutes les activités, s'appelle la coordination nationale. Et au niveau des pays où, là où il y a la diaspora, on appelle ces structures les ambassades Cibal. Donc il y en a une à Paris, il y en a une à Bruxelles, une à Washington, à New York, une à Rome, etc. etc. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fonctionne pour faire redescendre les informations et puis les actions du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Parce que toutes ces structures-là sont plus ou moins autonomes, mais ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire que toute forme d'action qu'elles doivent mener, elles doivent obtenir, comment on appelle ça, l'assentiment de la coordination nationale. Et je vous avoue que ce n'est pas facile. Parce que ce qu'on oublie souvent, la lutte, c'est un sacrifice perpétuel. Mais en parler comme ça, c'est comme il disait, peut-être que les images n'ont pas tout montré, nous on a vécu, c'était terrible ce qu'on a vécu. D'abord, on a vécu l'insurrection des 30 et 31 octobre. On a été obligé d'être au devant des choses et parfois de faire ce qu'on pourrait appeler même des compromis pour préserver un minimum aussi. Parce qu'il y a aussi ça, le sens des responsabilités. De la même façon qu'un rappeur ne peut pas tout dire, doit pouvoir dire tout ce qui est caché, mais ne peut pas tout dire. Et je sais pourquoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Parce que vous êtes responsable, d'une certaine façon, de ce que vous dites. Surtout quand vous vous adressez à une, comment on appelle ça, c'est pas que le public est immature, mais c'est qu'il y a quand même des jeunes, parfois, qui sont sensibles à certains types de messages. Donc, de la même façon que vous devez être responsable de ce que vous dites, vous êtes aussi responsable des actes que vous allez amener les gens à faire. Il y a eu quand même plus d'une soixantaine de gens qui ont été assassinés les 30 et 31 octobre, en plus du putsch. La résistance au putsch aussi, ce fut terrible. Moi, j'en ai payé qu'un prix matériel. Pardon ?
Il y a des gens qui sont peut-être
pas exactement. Ah oui, oui, oui. Voilà, il y a peut-être une question d'historique. C'est-à-dire que le 30 et 31 octobre, nous avons donc, avec le peuple le burkinabé, mené cette insurrection-là, qui avait pour but d'empêcher Blaise Compaoré, l'ancien président qui avait assassiné Thomas Sankara. Si vous ne connaissez pas Thomas Sankara, c'est un président qui a mené sa révolution de 83 à 87, Blaise en était le second, et qui a été assassiné par Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est resté au pouvoir pendant 27 ans. C'était, on va dire, un digne héritier de la France-Afrique, puisqu'il s'entendait à merveille avec les autorités françaises, parce qu'il faisait un peu le sale boulot dans la sous-région, trafic d'armes, trafic de stupéfiants, otages, échange d'otages, machin et tout. Il avait sa main partout. C'était le pacificateur et le facilitateur, entre guillemets. Mais en réalité, c'était le pompier pyromane. Il arrosait, puis derrière, il mettait le feu. Et donc, ce monsieur-là, pendant 27 ans, ce dictateur-là, a réussi quand même à s'imposer, à former ce clan. Donc, en 2015, il était censé quitter le pouvoir. Et il a tenté pour la deuxième fois de modifier la constitution qui limitait son nombre de mandats à deux. C'est là que l'action du balai citoyen et d'autres organisations de la société civile et notamment de l'ensemble des structures de résistance s'est mise en place. Donc on a réussi à chasser Blaise. Malheureusement, pour nous, et heureusement pour Blaise, il a été exfiltré par les Français et il est actuellement en Côte d'Ivoire, où il a été, on lui a généreusement octroyé la nationalité ivoirienne pour qu'il puisse échapper à la justice burkinabé. Mais tout ça n'est qu'une question de temps, puisqu'on dit que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Cela viendra. Donc, comme il avait encore sa garde qui était présente, c'est-à-dire le fameux RSP, c'est-à-dire les gardes de la sécurité présidentielle, ceux qui ont fait un peu, effectivement, qui étaient une sorte de milice au service de Blaise, c'était une armée dans l'armée, vraiment, qui avait toutes les armes qu'il fallait, la formation, etc. Ces gens sont restés là à traficoter encore pendant la transition, qui devait durer un an pour le mener aux élections. Ils ont pris le conseil des ministres en otage pendant au moins 3 ou 4 fois. Et la quatrième fois, ça a été le coup d'État, à un mois à peu près des élections qui devaient se produire. Là, il a fallu un sursaut, il a fallu s'organiser très rapidement pour empêcher tout ce qui avait été fait par le peuple burkinabé de partir à l'eau. On entendait déjà les hyènes qui riaient, comme dit mon grand frère Awadi, parce qu'il y en a qui applaudissaient. Ah, voilà, on avait dit que ça n'allait pas durer. Eh bien, nous, on s'est organisé en même pas 15-20 minutes, on s'est retrouvés, petite réunion de crise. Une heure plus tard, on était déjà en marche sur le palais de Kossiam pour empêcher les putschistes de rester au pouvoir. Une résistance a été menée pendant près d'une semaine. On a encore perdu des gens, malheureusement. Et ensuite, on a réussi à convaincre le reste de l'armée, l'armée républicaine au service du citoyen burkinabé, d'entrer dans la danse et de soutenir les résistants. Finalement, les putschistes, on a réussi à chasser ces putschistes qui sont aujourd'hui en jugement. Beaucoup sont en prison. Certains ont été relâchés sous prétexte qu'ils sont en liberté conditionnelle, ou etc. Bref, aujourd'hui, on a pour la première fois depuis presque une cinquantaine d'années, un gouvernement entièrement civil, issu d'élections quand même, on va dire, transparentes, puisque nous avons participé à avoir un œil dessus en tant qu'observateur. Nous avons fait ça en deux volets. La première campagne, c'était « Après ta révolte, ton vote » pour pousser les gens à s'inscrire sur les élections. Et la deuxième, c'était « Je vote et je reste ». Et « Je vote et je reste », c'était quoi? C'est-à-dire, lorsqu'un citoyen arrive et lorsqu'il vote, au lieu de partir tranquillement à la maison comme s'il avait rempli son devoir, eh bien, il reste sur place et il contribue à vérifier que tout se passe correctement et même au comptage des votes. Et on transmettait ça en temps réel à travers justement les réseaux sociaux, entre autres, et au niveau des radios. Parce qu'un média très important dans nos États, bien souvent d'ailleurs plus que les réseaux sociaux, c'est la radio. Et la radio dans les provinces, ça permettait de toucher énormément de gens. Donc grâce à ça, on a pu aujourd'hui avoir ce premier gouvernement-là. Mais le travail n'est pas terminé pour autant. Beaucoup de sacrifices ont été consentis. Moi-même, mon studio a été bombardé à la roquette. Ça, c'était il y a 2 ans. J'attends toujours la commission régulatoire qu'elle me fasse le point. Et comme j'en ai marre d'attente, j'ai décidé moi-même de... Parce que je travaille peu, je suis producteur. J'ai oublié de préciser que je suis producteur de musique à travers le label Studio Abazon. Et donc, je vis grâce à ça. Et que c'est un peu cela aussi qui me permet de rester effronté. Parce que c'est cette indépendance-là qui me permet aussi de pouvoir ouvrir ma grande gueule. Donc, je suis aussi en train d'essayer de relancer mes activités, puisque en juillet dernier, le studio a encore été incendié, malgré qu'il avait été reconstruit. On ne sait pas si c'est un incendie d'origine criminelle, on n'en sait rien. Il y a encore une enquête, énième enquête qui a été réouverte. Oui, non, c'est bon, non, mais de toute façon, j'ai terminé. Donc, je vous dis tout ça pourquoi ? Je vous dis ça parce que je veux que vous compreniez que c'est effectivement un sacrifice à consentir. Ce n'est pas uniquement des blessures, ce n'est pas uniquement des restrictions de liberté. Ça peut être la mort et ça peut être aussi, tout simplement, vous n'avez plus de vie. Parce que beaucoup d'entre nous, s'ils sont fiancés ou sont mariés, doivent comprendre que ce n'est pas toutes les compagnes qui vont supporter des réunions plusieurs fois dans la semaine, etc., des prises de risques, etc. Donc c'est vraiment des sacrifices qui sont malheureusement très souvent, pas toujours compris par un certain nombre de gens, ou pas toujours, qui sont parfois déçus. D'où l'importance de ne pas lâcher prise, d'où l'importance de maintenir cette lutte-là, vaille que vaille, de façon à ce que ces acquis ne soient pas dévoyés, de façon à ce que tout ce que nous avons réussi à engranger comme acquis ne, finalement, ne reparte pas à la poubelle. Sinon, nous aurions fait tout cela pour rien. Et là, je m'arrête là et je laisse parler mes collègues. Merci.
Merci beaucoup pour ce récit d'expérience. On va passer maintenant à Maître Madge. Je pense que ce sur quoi tu conclusais, ce moquet, ça sera l'occasion de revenir en discussion justement tous les trois sur trois terrains différents et notamment sur ce que ça signifie en termes de risques et de contraintes, l'engagement politique dans les mouvements sociaux en fonction du terrain sur lequel on se trouve. Effectivement, en France, on connaît les risques et contraintes en termes de carrière. Je pense que sur les terrains et burkinabé et sénégalais, on a vu ces risques et contraintes qui peuvent être bien au-delà que simplement ce problème lié aux carrières artistiques. Alors je passe maintenant la parole à Maître Madge. Déjà, je te remercie d'être venu un peu au pied levé, puisque l'histoire c'est que hier nous étions à la place pour une table ronde que Maître Madge mixait voilà, pour une exposition.
Tu peux m'appeler Madge parce qu'on va croire que je suis avocat. Si
pardon, donc Madge mixait à la place et que en discutant avec l'un d'entre nous, on s'est dit bah tiens pourquoi pas, et effectivement en fait c'est parfait parce que une des expériences sur le terrain français qui nous vient tout de suite en tête quand on parle d'engagement politique des rappeurs, c'est les 11-30 contre les lois racistes dans lesquelles Madge a été centrale dans l'organisation de cette compilation de ce morceau pardon, donc rapidement, c'est un morceau qui a été fait en 1997 contre les lois Debré et Pasqua, qui a réuni un certain nombre de rappeurs de la scène rap française et qui a été édité au profit du mouvement Immigration Banlieue. Si tu peux nous en parler de l'histoire de ce morceau-là et du rôle qu'il a eu et dans la scène rap et dans le mouvement antiraciste en France.
Le point de départ de cette initiative, à vrai dire, c'était le cinéaste Jean-François Richet et son équipe qui... Parce qu'il y avait un collectif, je ne me souviens plus, je crois, enfin vaguement, il y avait un collectif de cinéastes. Il y avait tout... Alors on était, c'était une situation particulière, parce que c'est vrai que cette histoire de loi Debré, ça se passait entre deux tours d'élection, je crois, ou avant des élections législatives. Et il y avait un collectif de cinéastes français, je ne sais plus composé par qui, mais bon, des gens connus dans la grande famille du cinéma français, qui en fait s'élevaient contre les lois Debré, mais on avait l'impression quand même que c'était juste un tapis déroulé pour que l'opposition de l'époque revienne au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui... Voilà, nous gouverne, peut-être plus pour très longtemps, mais enfin. Et Jean-François donc m'appelle un jour et me dit qu'il aimerait bien utiliser le rap sur cette question et qu'il proposait de faire un morceau collectif qui rassemblerait de nombreux acteurs de la scène de l'époque. Et d'un commun accord, on s'est dit qu'on ne pouvait pas, pour être crédible, faire ce genre de... Il y a des gens à qui ça ne pose pas de problème, mais nous, en tout cas, ça nous en posait un, de faire un morceau, entre guillemets, qui s'inscrirait dans une démarche de contestation sans qu'il y ait des retombées immédiates pour les gens sont au feu sur ces questions, si je peux m'exprimer ainsi. Et à l'époque, ceux qui en avaient le plus besoin et qui nous semblaient politiquement les plus intransigeants, c'était le mouvement de l'immigration et des banlieues, qui avait un lourd historique dans les quartiers. Depuis les mouvements qui avaient donné lieu à la marche de 83, enfin voilà, c'était plein d'acteurs comme ça, qui s'était regroupé dans un collectif qui s'appelait le Mouvement de l'immigration et des banlieues. Donc ce morceau a été produit en une après-midi, quasiment, je crois. Une après-midi, une soirée. Enfin, en un week-end, tout était enregistré, mixé. Et c'est parti au mastering le lundi matin et je crois que c'est sorti très peu de temps après. Et c'est vrai que ça avait eu un écho particulier puisque je crois qu'à ce jour, c'est le maxi de rap indépendant qui a le plus vendu, paradoxalement. Il y a, je parle de rap indépendant, hein, c'est le maxi qui a le plus vendu. Je sais qu'à l'époque, on était à plus de 150 000, un truc comme ça, enfin, un peu sur le temps, mais voilà. Donc, comme tu l'as précisé, c'est vrai que utiliser le rap, qui est une pratique culturelle, et à des fins entre guillemets politiques, et le poser en tant que relais, instrument de revendication qui de toute façon nous dépasse et nous transcende, puisque nous on est juste des éléments de cet univers. C'est beaucoup moins risqué en France que dans des pays comme le tien, ou même pas très loin, même en Russie. Hein. Je pense qu'en Russie, c'est plus dangereux de faire du rap et d'être porteur de discours, ou même, enfin, même pas que faire du rap, même d'être artiste et représentant d'un mouvement culturel ou d'une pratique culturelle et d'être le relais de revendications ou d'un discours. Je voulais également quand même tordre le cou aussi à un mythe, parce que très souvent, et nous en France, on est énormément pris dans ce mythe, c'est-à-dire qu'on pense que le rap est intrinsèquement politique. Beaucoup de gens pensent ça. C'est-à-dire qu'à sa naissance, le rap n'est pas du tout politique. Le rap, c'est juste un outil de divertissement dans les parties, dans certains quartiers ou dans la misère, les gens... mais comme à l'époque où est né le blues, pareil, c'est un mythe, le blues, au point de départ, n'est pas du tout un élément de contestation. C'est un élément de... C'est une soupape qui permet de respirer et de laisser libre cours à des besoins, entre guillemets, de s'éclater dans une vie de merde, en gros. C'est un peu ça. Et le rap, au point de départ, c'est ça. C'est juste un truc de divertissement. Les circonstances... l'histoire, les conjonctures ont fait qu'à un moment donné, il y a eu cette partie dans le rap, entre guillemets politique, qui, dans son histoire depuis le début des années 80, se jalonne avec des étapes, alors Grand Master Flash. Et nous, en France, quand la scène rap française s'est constituée à la fin des années 80, il y avait un groupe aux États-Unis qui s'appelait Public Enemy. Et nous, on a été très, très influencés par le rap de cette époque. Donc en France, on a toujours associé le rap à la politique, et il se trouve aussi qu'en France, on a une tradition éminemment littéraire. On est très, très attaché au verbe et à la chanson porteuse de textes forts. Donc, on a mis voilà, le rap. Alors, nous, c'est vrai, nous, avec Assassin, on a été pris là-dedans. On a été pris dans le rap politique. Et comme le disait le copain... nous aussi, on s'est posé ces questions à un moment donné. Est-ce que politiquement, il est, et même éthiquement, ça pourrait être tenable comme position de déclamer des textes avec des grandes revendications qui ne serviraient finalement qu'à faire encaisser des droits d'auteur à des artistes. Et donc, c'est pour ça que nous, très vite, dès le début des années 90, on a investi... les mouvements, alors on a très vite été en lien avec, bon à l'époque c'était pas le MIP, c'était le Comité National Contre la Double Peine, qui luttait âprement sur le terrain des violences policières et des injustices dans les quartiers populaires. On a très vite été aussi en contact avec un réseau, à l'époque s'appelait Reflex, qui était un réseau antifasciste très connu à l'époque et très actif. Et puis on a toujours répondu très favorablement dans la mesure où les choses nous semblaient politiquement intéressantes et à des sollicitations de venir jouer à droite, à gauche ou de venir participer à des initiatives. Et curieusement, si vous interrogez les acteurs politiques dans ces champs-là, ils vous diront que c'est très très dur, enfin, qu'il y a comme une schizophrénie dans le rap français, c'est-à-dire qu'il y a le discours, et il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on est. Et ce qu'on dit, malheureusement, n'est pas toujours ce qu'on est. Et certains acteurs ne comprenaient pas trop l'attitude, enfin, ne comprenaient pas trop le décalage qu'il y avait entre les paroles ou le discours de certains acteurs de la scène rap français, pour certains même très, 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 très connus, les soi-disant... révoltés et haut-parleurs du rap français qu'on voyait partout à la télé, qui étaient qui étaient des rebelles peut-être dans les couloirs de Sony Music ou sur les plateaux de télé, mais qui d'un coup, il n'y avait plus rien quand il fallait Alors peut-être, comme tu le sous-entendais, lié à des craintes par rapport à des perspectives de carrière qui pourraient être un peu plus compliquées. Mais c'est vrai que nous, on a pendant longtemps, avec Assassin et quelques autres, hein, parce qu'on n'a pas été tout seul, hein, je pense notamment aussi à La Rumeur, qui ont été des gens très sérieux sur ce terrain-là, et d'autres, on a quand même eu l'impression par moment d'être un peu seul au milieu d'un désert, enfin dans un désert. Et alors le 11-30, c'est vrai que c'était exceptionnel. Il y avait une dynamique, pour revenir à cette histoire, il y avait une dynamique qui a fait que même des gens qui, sur le papier, n'étaient peut-être pas immédiatement concernés, se sont associés à cette histoire. Ah, bah, il y a aussi un truc que je voulais dire, que j'ai oublié de préciser. On a exigé des artistes sur ce projet, et ils l'ont tous accepté, qu'ils cèdent leurs droits d'auteur. Pas que les droits sur les ventes du disque, mais qu'ils cèdent aussi les droits d'auteur. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, par exemple, et c'est là où il y a une très grosse arnaque, par exemple, sur l'histoire des enfoirés, qui soi-disant sont des gens très généreux. Donc effectivement, il y a une partie de ce qui est généré par les ventes qui est redistribuée au Resto du Cœur. Bon, association sur laquelle on pourrait discuter, mais peu importe, il y a donc une partie sur les ventes. Seulement les droits d'auteur, c'est-à-dire que quand une chanson de Goldman est interprétée sur scène par Mimi Mati ou Tartampion ou je ne sais pas qui, Goldman, il encaisse. Nous, ce jour-là, sur ce projet-là, en tout cas, on a exigé des artistes qu'ils cèdent leurs droits d'auteur. Et le problème, à ce jour, l'argent est toujours bloqué à la SACEM. Voilà, parce que c'était tellement compliqué à un moment donné de retomber sur tout le monde, il fallait faire signer, c'était un imbroglio administratif. Sur les ventes, c'était assez simple, mais sur les droits d'auteur, c'était un tel merdier. Et puis avec le temps, les gens se sont dispersés, il y avait des gens qui étaient notamment au Sénégal, je sais qu'il y avait Jolof, je crois, il y avait un groupe sénégalais qui s'appelait Jolof qui était dans l'histoire. Bon, les mecs étaient rentrés au Sénégal, à l'époque il n'y avait pas de mail, pas d'internet, enfin c'était un peu... Et donc finalement, la personne qui s'est occupée de tout ce qui était un peu administratif, à l'époque c'est une personne de grande valeur, en tout cas sur ce projet, qui s'appelle Marie Audigier, dont on ne parle jamais, mais qui a, je pense sans elle, le projet n'aurait certainement pas vu le jour. Finalement, bon, au bout d'un moment, elle a lâché l'affaire, mais l'argent, et je pense que ça représente quand même un petit pécule, est toujours bloqué à la SACEM. Mais les artistes avaient gracieusement accepté, et c'est tout à leur honneur. Alors des Stomy Bugsy, des gens même très connus à l'époque, IAM, avaient accepté de céder leurs droits d'auteur, ce qui ne se fait jamais.
Merci. Et puis je me rappelle du MIB qui raconte à quel point l'argent qu'il avait récolté avec les 11-30 contre les lois racistes leur ont permis de complètement décoller, d'acheter un local, je crois, de financer plusieurs permanents.
Ils n'ont pas acheté, mais ça a permis de payer des loyers pendant très longtemps. Je crois qu'à l'époque, dans les mois immédiatement, enfin dans les deux ans, je crois, qui ont suivi le projet, si ma mémoire est bonne, ça avait rapporté... Alors bon, c'était un autre siècle, on parlait en francs à l'époque, ça avait rapporté 600 ou 700 000 francs, ce qui est l'équivalent d'à peu près de 100 000 euros, 100, 110 000 euros. Bon, c'est replacé il y a 20 ans, parce que c'était maintenant il y a 20 ans. C'était quand même pas négligeable, ouais.